Dites-moi comment vous traitez les drogues et les gens qui en consomment dans votre société, et je vous dirai dans quelle société vous vivez. Aujourd'hui, la question de l'usage de drogue, et l'usage de cannabis en particulier, c'est un très bon prétexte pour contrôler, c'est un très bon prétexte pour placer en garde à vue, c'est un très bon prétexte pour perquisitionner, c'est un très bon prétexte pour incarcérer. Le cannabis est interdit parce que le cannabis, c'est de la merde. Ça, c'est ce qu'on nous établit comme règle majeure. Si la merde sert à soigner des gens qui ont le cancer et qui sont à des stades particulièrement avancés de leur maladie, ça n'en est plus vraiment. Il y a des gens pour lesquels c'est nécessaire et d'autres pour lesquels ça doit être une liberté. Rien sur le cannabis médical n'est simple. Donc ceux qui considèrent ça comme acquis et qui disent c'est bon, c'est ok, ça va venir tout seul, ça n'arrive pas tout seul. Je discute avec quelques copains parfois qui me disent « Non mais c'est bon, le cannabis médical, l'an prochain ce sera bon. » Non, ça se passe pas dans une boule de cristal. Tout le monde trouve ça parfois débile, parfois inutile, mais on continue d'appliquer drastiquement les lois et les dispositions qui visent à réprimer. Ces lois qui prétendent protéger la sécurité sur la route sont des lois qui créent beaucoup de tensions sociales et surtout, principalement d'ailleurs dans la ruralité, là où il y a le moins de transports en commun, là où les gens sont les plus éloignés de l'accès aux trains, bus et autres. Ou bien ils légalisent, ou bien ils répriment. Et ils réprimeront durement, et ils réprimeront salement. Et ils ont déjà réprimé durement et salement. Donc la question c'est quand est-ce qu'on sort de ce système? Quand est-ce qu'on rétablit un peu de justice et de droit? Quand est-ce qu'on fait que les lois soient réellement là pour protéger les individus?
Parlons canin.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti!
Merci beaucoup de venir prendre la parole sur Parlons Cana. Je sais que tu as des très bonnes informations. Je pense qu'on va avoir un échange très riche.
Tu me rends temps... déjà à la première minute. Merci Damien pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de répondre positivement à des projets qui sont ultra intéressants. Et c'est vrai que j'ai écouté quelques-uns de vos podcasts, donc je me disais que ça pourrait être sympa aussi qu'on apporte une vision peut-être plus associative, plus... plus sur le volet advocacy, lobbying, et donc voilà. Donc merci à toi pour l'invitation, et oui, il y a des choses à dire, mais bon, après, tu sais, je pense qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été dites ici, que je me sens comme un passeur de flambeau.
Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche aussi, c'est finalement, c'est pas non plus des articles de blog, des articles de presse aussi, écrits, où chaque mot est pesé, ou... Là, c'est aussi des discussions, c'est aussi rencontrer des personnes au-delà des informations qu'elles apportent. C'est aussi voilà, écouter des personnes qui sont inspirantes, qui ont un parcours, qui ont des combats, qui ont des convictions. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'est Parlons Cana, le fait de découvrir des personnes, même si finalement le gros des informations est certainement déjà dit. Béchir, est-ce que tu peux te présenter? Un peu personnellement pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que moi y compris qui te découvre, et les personnes qui vont nous écouter comprennent un peu mieux qui tu es et finalement en fait d'où viendront toutes les informations que tu nous donnes par la suite.
Mais ouais, je pense que c'est bien, et d'ailleurs tu sais qu'on le demande pas assez ça aux gens, d'où ils viennent, d'où ils parlent, de quel contexte ils s'expriment. Mais moi en gros c'est une histoire assez simple, je suis enfant de deux immigrés venus de Tunisie, je suis né à Paris, j'ai grandi dans des conditions plutôt correctes, j'ai eu une éducation assez poussive mais utile parce qu'elle permet de d'apprendre une culture qui est pas forcément la nôtre, tu sais, on fait partie de cette génération où on est pas tout à fait d'ici mais pas tout à fait de là-bas. Et donc à vivre entre ces deux cultures, la France et donc la Tunisie familiale, et très vite j'ai eu le goût pour la question politique, pour les sujets relatifs à la justice, aux injustices.
C'est-à-dire à 7 ans ou c'est-à-dire à 15, 16, 17?
Je sais pas au plus jeune, je pense que à 10, 11 ans, je voulais déjà être avocat justement pour défendre les plus faibles et tu sais le truc de gosse absolument narcissique et un peu prétentieux mais aussi ému par toutes ces injustices qui peuvent être perçues au quotidien et ce truc de la pauvreté qui augmente, la marginalité, etc., etc. Donc j'ai toujours eu ce côté un peu à chercher une solution, à essayer de comprendre les ressorts de la société autour de nous, ce qui fait que paradoxalement ça fait que t'es beaucoup moins intéressé par les sujets du quotidien et que tu peux apparaître un peu plus comme rêveur ou autre. Et puis après bah du coup j'ai fait comme c'était de coutume en famille, c'est-à-dire que t'as cette phrase un peu drôle qu'un humoriste racontait, mais que mes parents d'une certaine manière m'ont prononcé. C'est, tu sais, les parents immigrés qui se sont mobilisés, qui se sont sacrifiés parfois pour leurs gosses, arrivés au bac leur disent soit t'es un ami, soit t'es un ennemi. Et ami, c'est A avocat, M médecin, I ingénieur. Et
donc, je connaissais pas, mais c'est génial.
elle est pas mal. Hein, pas mal.
Ouais.
Et du coup, bah, je me suis dit, je vais faire des études de droit. Donc j'ai commencé les études de droit. J'ai kiffé le droit, mais à côté de ça, je travaillais, je rédigeais des articles, on a lancé des associations, et très vite, en fait, un réseau naît. Donc, on lance une sorte de think tank donc j'étais à l'université Panthéon-Sorbonne, et on se met à inviter des personnalités politiques, on se met à inviter des chercheurs, et l'idée c'est de les faire venir à la fac pour échanger, discuter. Donc on fait des conférences, des débats, on rédige des textes, on fait des propositions.
Trop bien, bravo.
Et je sors de 5 ans d'université en ayant galéré sur une année et surtout en ayant invité beaucoup beaucoup de monde et en ayant un réseau assez impressionnant pour un gosse de 23 piges.
Mais... Parce que là il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de thématique centrale,
Non, c'était global, c'était sur les questions internationales, la géopolitique, les questions économiques, sur la réforme de l'Union européenne. Oh là, je commence à être chiant. Mais tu vois le truc, c'était des sujets de politique générale.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, dans l'un de nos débats, on aborde la question du cannabis. Donc on organise un événement sur le cannabis, et donc le prétexte à ce moment-là, c'était de se dire, vous entrez dans la salle et le cannabis a déjà été légalisé. Et donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe le jour d'après? Et donc on invite à ce moment-là un certain nombre d'associatifs et d'experts, et l'événement qui a lieu fin juin, on s'attendait pas à ce qu'il y ait du monde, et finalement il y a du monde, et ça se passe plutôt bien. Et à ce moment-là, je comprends, alors moi c'est même pas moi qui ai organisé l'événement, c'est l'un de nos membres de l'asso, à ce moment-là, je comprends qu'il y a ce sujet sur le cannabis. Moi, j'en consomme de manière très occasionnelle, je fais pas partie, à dire vrai, de la catégorie des usagers quotidiens ou réguliers. Je suis pas dans ce mood de consommer, et d'ailleurs, même au niveau de l'alcool, voilà, mon problème, moi, c'est plutôt la nicotine. Mais ça, de toute façon, on peut en parler, parce que, je sais pas si t'as vu, d'ailleurs, digression. L'OFDT a publié là récemment une analyse sur le coût social des drogues. Et on voit bien aujourd'hui que les drogues légales représentent la majeure partie du manque à gagner pour l'État, du coût sanitaire et social, que ce soit l'alcool ou le tabac, c'est nombre un taux de mortalité qui est très élevé, etc., etc. Mais bref. Donc, pour revenir à notre affaire, un événement, on lance cet événement, je participe et je trouve que c'est génial.
Et ça, c'était en quelle année pour constituer
de la réflexion ? En juin 2015, je pense.
D'accord, en 2015, ok.
Et bref, un intérêt pour le sujet, mais sans trop, je vois ça passer. C'était pas non plus flamboyant d'un point de vue, et je le dis, même si j'aime bien les gens qu'on avait invités ce jour-là, c'était, tu sais, ça te donne pas envie forcément de te mobiliser, etc., etc. Et puis finalement, je me suis quand même intéressé au truc. J'ai essayé de réfléchir au sujet. Et en parallèle, je crois, je sais plus si c'est avant ou après, mais on sort un texte qui sera publié dans l'Obs pour dire le cannabis, tout le monde en fume, légalisons-le. Et le truc est partagé 200 000 et quelques fois, et les gens en parlent. Et du coup, on se fait contacter par plein de gens qui nous disent « Allons-y, faisons un truc un peu sérieux sur le cannabis. » Et bah oui, mais il y a déjà des choses qui existent. Bref, et finalement... Je laisse passer le truc, et ça n'est qu'un an après que vraiment je vais m'investir dans la cause. À ce moment-là, Chanvre et Liberté devient Normal France. Je vais m'investir dans un temps à Normal. Mais en fait, c'est un investissement plus global sur tout le mouvement, parce qu'il y a d'autres associations avec lesquelles on va bosser. Et en fait, je me dis à ce moment-là, on n'a pas encore eu les outils et les moyens en France pour avoir un mouvement massif sur la question du cannabis, pour créer un espace d'attractivité pour toutes les personnes qui ont envie qu'on légalise. Et donc c'est cette vision stratégique-là qui m'anime au départ, qui nous anime, parce que je te mentirais si je te disais que j'étais seul dans ce truc. En fait, c'était vraiment une collectivité, et des gens qui étaient là auparavant, et de nouveaux qui sont venus en se disant « Tiens, y a un truc à faire ». Et donc... par la force des choses, le cannabis qui n'était pas forcément mon sujet, qui n'était pas forcément mon intérêt premier. Moi, je vois beaucoup de copains qui sont des usagers très actifs et qui agissent presque aujourd'hui comme des syndicalistes. Et on a besoin d'ailleurs qu'il y ait un vrai syndicat des fumeurs de weed en vrai en France. Moi, je comprends pas qu'on n'assume pas aujourd'hui de dire c'est un syndicat des consommateurs, même si le fait d'être consommateur n'est pas un travail. Mais en tout cas, ça a tous les risques. Et toutes les conséquences négatives pour l'individu aujourd'hui du fait de la pénalisation et autres. Et donc j'étais pas consommateur. J'étais dans un truc où je me disais, là il y a un sujet. Et je tire la ficelle, j'essaye de comprendre, je lis beaucoup.
Si ton intérêt n'était pas ton intérêt personnel en tant que consommateur, quelle est la thématique qui t'a le plus touché au point que tu t'investisses, que tu milites? Est-ce que c'était plus l'accès aux soins? Est-ce que c'était le droit à la liberté de consommer? Est-ce que c'était l'écologie? Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Finalement, c'est un peu ma question première. C'est qu'au départ, j'y vais juste parce que je suis emmené par un groupe, parce que les gens sont plutôt sympas, et parce que je suis invité et placé tout de suite, tu sais, sur un piédestal, et plutôt valorisé, bien accueilli par des gens qui, dans un mouvement qui a été quand même très marginalisé pendant des années, où il y avait une grande mise en cause des consommateurs et des militants encore plus. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Farid Guéouèche, qui est un très bon ami, et que et pour lequel je voue une forme d'admiration en ce que il a toujours été sur la même ligne, et il a toujours défendu avec autant de hargne, autant de force, l'intérêt des consommateurs. Mais Farid, typique, c'est exactement le si Farid, s'il s'était engagé sur la question des éoliennes, aujourd'hui il serait à la tête d'une boîte qui vend des éoliennes et il serait multimillionnaire. Tu vois, je donne l'image. C'est-à-dire qu'il a pris un sujet et ce sujet le transcende, et en même temps il fait partie de l'ensemble de ces militants qu'on a tenté de marginaliser, qu'on a tenté de mettre en cause, avant même, tu sais, les statuts de lanceurs d'alerte, avant même l'évolution du droit pour essayer de protéger les responsables associatifs, etc., etc. Bon, enfin, bref. Donc, je comprends pas pourquoi j'y vais, et si, En fait, je comprends. Je comprends parce que je lis un certain nombre de textes, La couleur de la justice notamment, en fait, c'est une période où vraiment je découvre toute une forme de littérature. Et là, je te donne l'exemple de Michelle Alexander, qui est donc cette juriste américaine qui a travaillé sur comment les lois sont appliquées de telle sorte à ce qu'elles créent un fossé entre les populations blanches et les populations noires aux États-Unis. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là. Je tâtonne et j'arrive, je pense, au bout de 6 mois, 1 an, à cette idée simple qui est « Dites-moi comment vous traitez les drogues et les gens qui en consomment dans votre société, et je vous dirai dans quelle société vous vivez. » Et donc, pour moi, le cannabis, ça n'est pas le sujet du cannabis en tant que tel. Le cannabis est un miroir représentatif de la société. Et quand on dit un miroir, c'est qu'il est le miroir des inégalités territoriales. Aujourd'hui, entre le fait de consommer de la weed en Franche-Comté et de la consommer à Paris et de la consommer en Seine-Saint-Denis, il y a une différence. Il est le reflet des inégalités de genre. Il est le reflet des... Je vois moi beaucoup, et on l'a vu ces dernières années, beaucoup de femmes perdre l'autorité parentale parce qu'une femme qui consomme de la weed, c'est pas une mère, c'est pas un père cool. C'est une mère problématique. Il est le reflet des inégalités raciales, culturelles, ethniques, je ne sais pas comment on peut les déterminer, avec cette surreprésentation des jeunes hommes noirs et arabes de banlieue. Et donc, si tu veux, pour moi, le cannabis n'est qu'un miroir. Et donc, en luttant sur cet aspect-là, en fait, on essaye de se battre pour que toute la société évolue. Et donc, c'est pour ça que 2 ans après, donc 2017-2019, On s'est retrouvé avec les copains avec lesquels on bossait sur le sujet. Il y avait Yann Bizou, il y avait Sophie Niklaus aussi qui était chez Les Verts. D'ailleurs, entre-temps, nous avions aussi Les Verts un peu aussi sous son impulsion. Et celle de Jacques Bouteau. Alors Jacques Bouteau, c'est très drôle, c'était le maire écolo du 2e arrondissement à Paris. Ça a été le seul maire écolo pendant des années. Et lui, il était un consommateur assumé. Et donc ça avait été l'un des voilà, c'est ces gens-là qui ont fait aujourd'hui qu'on a cette transmission d'un point de vue de la réflexion. Mais donc il y avait Sophie Niklaus, il y avait Yann Bizou, il y avait le copain Sacha Benamou qu'on avait rencontré sur le chemin. Sacha, aujourd'hui, il est consultant en affaires publiques. Avant, il avait été collaborateur d'Olivier Véran. Donc on est allé le voir pour mobiliser Olivier Véran pour créer la fameuse expérimentation du cannabis thérapeutique. C'était déjà, voilà. Et il y en avait comme ça une dizaine. Et la dizaine, on s'est dit, en fait, on n'a pas besoin d'une association de masse, parce que de fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que les consommateurs, soit ils sont trop occupés avec leurs problèmes au quotidien, soit, en fait, ils participent à l'association que dans l'objectif de défendre leur conso. Et donc, si on a envie de pousser cette partie du débat, qui est cette partie de notre argumentaire, qui est complémentaire des autres, hein, qui s'oppose pas aux autres réflexions, aux autres analyses et aux autres points de vue. Mais si on veut défendre ça, on a besoin aujourd'hui d'avoir un espace. Et c'est pour ça qu'on a créé L630. Et alors, L630, c'est quoi? L630, c'est l'article qui interdisait jusqu'à la fin des années 90, mais qui s'appelle autrement maintenant, mais qui interdit toujours la présentation sous un jour favorable d'un certain nombre d'infractions, dont l'usage de stupéfiants. Et donc, ce texte a été utilisé pour mener contre les éditeurs, contre les organisateurs d'événements, contre même encore récemment des boutiques de CBD. Moi, je l'ai vu en Martinique avec une boutique de CBD qu'ils ont voulu fermer parce qu'il y avait une fleur de cannabis, une feuille de cannabis sur une chaussette dans une devanture. C'est un article qui a été utilisé pour que, à chaque fois qu'un procès, à chaque fois qu'un juge d'instruction, à chaque fois qu'un procureur, à chaque fois que des flics n'ont rien, ils condamnent sur ce fondement en rapportant tout symbole lié au cannabis. Et on s'est dit que ce texte-là, le L630, était la quintessence de ce qu'un système d'interdiction pouvait être idéologique et à quel niveau, si tu veux, la politique pénale avait été détournée. Parce que le fond là-dedans est là. C'est que le sens même de la politique pénale, quand t'es dans une démocratie, quand t'es dans l'état de droit, la politique pénale, le droit est censé protéger les plus faibles, il est censé protéger les plus vulnérables, il n'est pas censé les attaquer, il n'est pas censé les marginaliser davantage. Et donc l'objectif même de la loi pénale est censé justement prémunir, déjà c'est protéger l'ordre public, préserver l'ordre public, et prémunir des violences et des agressions. Quand tu as un texte comme ça, tu ne comprends pas le sens. Parce que ça veut dire quoi d'interdire les fleurs de canna ou d'interdire un bouquin qui parle de la weed? Parce que c'est ce qui s'est passé au début des années 2000 et même durant toutes les années 90. Et je pense que, non, pas durant toutes les années 90. D'ailleurs, ça n'a pas commencé aux années 90, c'est vraiment début des années 2000. D'ailleurs, je pense que Michel Cidbon, que tu as eu, pourra le dire, ou en tout cas a dû le dire.
Il l'a dit.
Il y a ce sujet de l'ordre du. Aujourd'hui, on est sorti du texte qui a vocation à protéger les gens. On est dans des dispositions qui visent à défendre une vision de la société, un truc moral. Et donc, L630, c'était une réponse à ça. C'est des avocats, quelques magistrats, alors qui apparaissent pas sur le site, mais qui parce qu'ils sont soumis au devoir de réserve, etc. Mais qui nous donnent des conseils. C'est des communicants, des consultants. Moi, je suis consultant en affaires publiques. Mon travail au quotidien, c'est des relations à la presse, de l'influence. Donc, je me retrouve là-dedans. Et des responsables de plaidoyer. Parce qu'il y avait aussi à la création, il y avait Robin Drevet qui était à ACT UP, qui est maintenant dans une association en Belgique. Et il y avait, voilà, tout un ensemble. Il y a un écosystème au départ d'une dizaine, puis d'une vingtaine, trentaine de personnes. Et donc, L630 aujourd'hui, c'est. Voilà, c'est une organisation, on participe pas de manière flagrante au débat public sur les drogues. Notre rôle, il est plutôt d'essayer de créer du lien quand il y a besoin. Donc on intervient pas mal ponctuellement sur un certain nombre de sujets. Là, il y a tous les copains des associations qui organisent des free parties, qui ont eu toutes les difficultés. Tu sais, durant le confinement, il y avait une grosse marginalisation, etc. Donc on est intervenu, par exemple, pour les soutenir sur cet aspect-là. Là, par exemple, on est mobilisé par un certain nombre d'associations qui défendent les droits humains, et on travaille avec elles sur l'élaboration d'une proposition de loi sur la sécurité routière, pour arrêter avec ce système où depuis que Palmade a fait une connerie, maintenant on veut revenir à l'âge de pierre en termes de sécurité routière.
Mais écoute, déjà, on va en parler, je pense, juste après en détail, mais j'aimerais bien revenir sur 2-3 trucs sur L630, avant justement de pouvoir aller en détail sur la sécurité routière. Donc en fait, de ce que je comprends, c'est pour compléter une association de consommateurs, là c'est vraiment une asso de lobbying pour porter l'information au plus proche des décideurs, en réunissant une espèce de comité d'experts sur différents sujets. Est-ce que c'est bien ça, le 630?
Oui, et c'est même pas, je parlerai même pas d'expertise, je dirais que c'est des gens qui avaient envie de bouger, qui avaient envie qu'on change les choses, et qui avaient pas forcément vocation à être, tu sais, aujourd'hui dans le milieu des addictions, t'as la catégorie professionnelle de santé, donc soit t'es un pro de santé, soit t'es un acteur du médico-social, donc les éduques, les assistantes, les machins, voilà. Et soit tu es usager. Et t'avais pas là-dedans des responsables, des porteurs de plaidoyer en bonne et due forme qui se déterminent comme ça. Donc oui, c'est on vient en complémentarité et d'un autre côté, si tu veux, on est voilà, il y a pas une recherche d'être visible. D'ailleurs, le fait que je te réponde, c'est assez rare. Je réponds de manière générale, je veux dire, assez rarement aux propositions d'interview ou autres, parce que justement, on essaye de premièrement, de ne pas prendre la place des autres. L'idée, c'est pas de faire une conquête médiatique du sujet ou d'essayer de se raconter un machin. Et l'objectif, c'est justement d'être à sa place et d'essayer d'être le plus utile possible au schmilblick. Et donc là-dedans, voilà.
Voilà. Est-ce que cette discrétion, finalement, c'est pas aussi une manière d'être efficace? En fait, quand on pense lobby, on pense des discussions un peu informelles dans des couloirs avec quelqu'un qui est payé par Total pour faire passer une loi. Quelque chose de très mystérieux, très discret. Est-ce qu'en fait, pour avoir un poids sur les décisions, soit on est très visible, très médiatisé, et ça met une sorte de chantage aux décideurs, ou alors au contraire, très discret pour que la personne, en fait, le décideur puisse s'informer, puisse échanger, sans être typiquement là sur le sujet, par exemple, du cannabis, ça permettrait de pouvoir en parler avec des décideurs sans qu'ils s'exposent, sans passer pour quelqu'un de laxiste parce qu'il discute avec une association sur le cannabis. Est-ce que finalement, en lobby, la discrétion, c'est pas un outil aussi d'efficacité? ou une nécessité de, d'efficacité?
Ben, je pense que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire, t'as besoin de discrétion, mais je dirais discrétion, et en même temps, paradoxalement, on est quand même censé publier à la Haute Autorité de Transparence, à la vie publique, les différents rendez-vous qu'on demande. Hein. Alors, on ne précise pas le nom des députés, par exemple, ou le nom des ministres spécifiquement, mais évidemment, il y a quand même une obligation déclarative. Mais il y a besoin de discrétion, parce que des fois, t'as besoin, évidemment, d'avoir des passerelles. Moi, je l'ai vu durant le confinement, par exemple. Tout l'enjeu, ça a été d'essayer de faire le lien entre un certain nombre d'associations et un ministre que nous, on connaissait plutôt bien, pour avoir eu l'occasion de travailler avec lui pendant 2 ans et demi, pendant qu'il était député. Ça a été aussi le fait d'essayer de favoriser auprès de l'Agence du médicament. Quand l'ANSM fait sa révolution sur le cannabis médical, évidemment, il y a besoin qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui traditionnellement, moi par exemple, je sais que de 2017 à 2019, l'un de nos exercices hebdomadaires favoris, c'était d'attaquer l'Agence du médicament parce que elle agissait pas sur la question du cannabis médical. Et si tu veux, ça nous choquait parce que bon, le cannabis médical, des patients consomment, on en a rencontré plein d'ailleurs à cette époque, et j'en rencontre encore aujourd'hui. Et si tu veux, on était choqués du fait que l'agence en France en charge des médicaments autorise pas le cannabis pour les personnes qui souffrent. Et quand l'ANSM fait son switch, l'une des premières choses qu'on fait, c'est justement de créer l'échange, de créer la passerelle, de discuter, et ça a permis, je pense, et ça permet encore d'avoir des voilà. Mais d'un autre côté. Le plaidoyer, parce que je préfère parler de plaidoyer que de lobbying. C'est le lobbying, c'est pour défendre des intérêts particuliers. Le plaidoyer, c'est pour défendre l'intérêt général. Mmh. Et pour cette partie-là, on dit qu'on fait du plaidoyer, mais c'est des mots qui sont très proches. Pour ça, c'est bien aussi d'avoir un peu d'outils de communication et de levier. Je pense que c'est un va-et-vient. Je pense que et il y a des rendez-vous, et il y a des échanges. Interpersonnel, discret et tranquille pour essayer de rajouter de l'huile dans les rouages. Et parfois, on gueule et on va dans les médias. Je te dis sur ce, moi, c'est un gros sujet qu'on a suivi, le cannabis médical. Il y a 2 ans et demi, on nous annonçait, donc c'était quoi? C'était 2020. On nous annonçait qu'il fallait un décret pour l'expérimentation. Donc l'expérimentation était validée, on avait poussé pour qu'elle ait lieu, on espérait qu'il y ait une légalisation immédiate du cannabis médical en France, finalement on l'a pas, on nous dit qu'il faut quand même tester sur un certain nombre de patients avant, mais on comprend pas trop pourquoi, mais bref, on valide le truc, et là on nous dit pour l'expérimentation, mais écoutez, ça prend du retard, du fait du Covid, machin, et il y a un décret qui doit sortir, le décret sort pas. Sauf que si le décret sortait pas avant le mois d'octobre, l'expérimentation ne pouvait pas se lancer cette année-là, donc il fallait la décaler encore d'un an. Donc là, à ce moment-là, on a organisé conférence de presse, on s'est mobilisé avec les associations de patients. À l'époque, il y avait l'Union francophone des cannabinoïdes en médecine, l'UFCM. Moi, ça a été, tu veux d'ailleurs, dans toute cette grande histoire, la petite histoire, c'est que moi, je me suis attaché à la question du cannabis médical le jour où j'ai rencontré Bertrand Rambaud. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'échanger avec lui, mais je pense que tu vois, lui, typiquement...
Tu peux nous en parler?
Ouais, Bertrand, si tu veux, ça a été un militant plutôt sur le VIH-Sida pendant 15-20 ans. Historiquement, d'ailleurs, il avait été aussi à Sud, il me semble. Et Bertrand, il consommait du cannabis parce qu'il avait un certain nombre de pathologies et de difficultés au quotidien. Et à un moment, il a été arrêté pour ça en 2014. Placé en garde à vue, sans avoir accès à ses médicaments, enfin je te laisse imaginer la chose. Et donc, entre-temps, il avait créé la première association, l'une des premières associations avec Principe Actif, association d'usagers pour le cannabis médical, et l'UFCM a organisé pendant 15 ans, un colloque annuel, premier colloque en France, sur les cannabinoïdes en médecine. Donc avec des présentations de projets de recherche, des présentations des revues de la littérature, des invitations d'acteurs qui sont venus des quatre coins du monde pour venir intervenir à Strasbourg et quelquefois à Paris. Et donc ça a été tout de suite perçu comme... Ça a été l'un des outils. Voilà. Donc moi c'est vrai que c'est à ma rencontre avec Bertrand, qui est par ailleurs une personnalité assez charismatique, que je me suis dit... Le sujet du cannabis, en général, n'est pas complet, n'est pas compris de manière transversale si j'intègre pas moi-même dans ma vision, dans mon militantisme, cette question du médical. Et bref, donc pour revenir sur ce médical, finalement, il y a des fois on est discret, et on a été discret pas mal de fois. Puis il y a des fois on a gueulé, et donc là il y a eu une tribune qui a été publiée dans Le Parisien, une conférence de presse organisée dans la mairie du 3e à Paris, et on a mobilisé un certain nombre de journalistes, et deux semaines après le décret est sorti. Donc des fois, si tu veux, t'as besoin de titiller les pouvoirs publics pour que ça bouge.
Oui, carrément, très clair. On en entend pas mal parler avec les associations écologiques. J'ai plus les termes exacts, mais le fait qu'une action violente soit nécessaire pour compléter une action non violente, et qu'en fait, je sais pas si ça te parle, si t'as les termes techniques pour.
Non, mais bien sûr. Dans tous les cas, c'est vrai que ce qui ressort, c'est qu'il y a une complémentarité qui est nécessaire entre les acteurs. Mmh. Qu'il y a des acteurs qui doivent être peut-être plus, tu sais, good cop bad cop, plus virulents à l'égard du pouvoir, et d'autres qui le sont moins. Et l'essentiel, en revanche, et ça, c'est vrai que c'est le point central, c'est que lorsqu'on réclame un changement de société, on ne peut pas, être en rupture avec les autorités et les institutions au pouvoir. Et ça, c'est ce que je comprends là de plus en plus, c'est que bon, j'ai pas l'impression que mon candidat à la présidentielle, c'était Yannick Jadot. Je sais même plus si c'est un motif de, fierté ou de honte. Non, parce que je l'aime beaucoup et c'est un mec génial, mais bon, il a pas eu sa chance. Mais le sujet, c'est que je pense que ni Yannick Jadot, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Anne Hidalgo, peut-être encore moins Anne Hidalgo, heureusement, ni d'autres ne sont aujourd'hui au pouvoir. Et donc, parmi les candidats à la présidentielle de 2022 qui ont appelé à la légalisation du cannabis, il n'y en avait pas grand nombre qui ont fait un score significatif. Donc, partant de là, sur cette question du cannabis en particulier, c'est ou bien on se met juste dans une logique d'opposition au gouvernement, et donc c'est ce que certains font, et ils se complaient là-dedans de manière géniale, ou bien on est évidemment une opposition, puisque de toute façon il y a une remise en cause profonde du système pénal, du discours politique ambiant, voilà. Mais on est capable aussi de faire la part des choses et d'essayer de co-construire un certain nombre de politiques. Et donc ça, c'est l'enjeu typiquement du cannabis médical. C'est pas parce que il y a des embrouilles et des oppositions très dures. Enfin, par exemple, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec on se dit tout, mais avec un certain nombre de ministres qui ont été nommés récemment et qui ont tenu sur la question du cannabis des positions absolument terribles. Moi, je pense à Sabrina Agresti-Roubache, qui est ministre de la Ville aujourd'hui, qui était une élue députée de Marseille, très active sur la question de la sécurité justement, et qui, elle, sur la question du cannabis, a une vision très old school. Oui, c'est problématique d'avoir aujourd'hui ce discours, et évidemment on n'évite pas les Gérald Darmanin et autres ministres de l'Intérieur, mais en fait, je sais pas si tu remarques, mais tous les ministres de l'Intérieur ont des discours débiles sur la question du cannabis depuis Mathusalem. On a eu Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Christophe Castaner. Bon, la moitié des noms ont peut-être déjà été oubliés par tes fidèles auditeurs. Mais on a toujours eu, historiquement, on a toujours eu des débiles à Beauvau sur la question de la légalisation du cannabis. En tout cas, des gens qui n'étaient pas cultivés.
À quel point est-ce que tu penses que c'est une posture qui est... À quel point est-ce que tu penses que c'est une posture, et pourquoi est-ce que cette posture, elle serait obligatoire pour un ministre de l'Intérieur? Est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment convaincus, ou est-ce que si finalement il y a un remaniement, merci beaucoup, excuse-moi, un remaniement, et qu'en fait le ministre de l'Intérieur devient ministre de la Jeunesse, ou ministre des Sports, ou ministre de la Santé, là il peut changer de sujet, il peut changer d'avis, pardon. Tu vois, à quel point est-ce qu'en fait c'est lié à ce ministère-là, il doit avoir cette posture-là, ou c'est, selon toi, une conviction qui est propre à tous ceux qui sont passés par ce poste-là?
Moi, je crois pas que ce soit une conviction propre. Tu sais, on a, moi, j'ai eu le plaisir de préfacer un livre qui a été d'ailleurs édité par Michel et écrit par Jean-Pierre Coutron, Yann Biziou, Pierre-Yves Joffard et d'autres.
Comment il s'appelle ce livre?
Si tu l'entends. Il s'appelle En finir avec la guerre aux drogues.
Ah oui, d'accord, ouais, ouais.
Et je me souviens que quand j'écris la préface, je me suis dit, mais tiens, c'est drôle, toutes les personnes qui ont dirigé la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, elles attendent, tu sais, elles attendent 3-4 ans avant de dire, non mais nous quand même, on est pour la dépénalisation ou la légalisation du cannabis. Et si tu veux, c'est flagrant concernant donc la mission interministérielle, qui est cette agence d'État qui existe dans les bureaux du Premier ministre et qui est censé coordonner l'action du gouvernement. Et donc, quand je vois ça, je me dis, non, je pense qu'il y en a beaucoup pour lesquels ça relève pas de la conviction profonde. Maintenant, sur les ministres de l'Intérieur, ils sont dans leur rôle. Je dirais qu'ils sont dans leur rôle parce que aujourd'hui, il y a beaucoup du contentieux, il y a beaucoup d'heures de policiers et de gendarmes qui sont utilisés, employés pour faire de la chasse aux usagers. Je dirais que je crois pas que ce soit une conviction parce que on a quand même des gens qui sont intelligents. Je veux dire dans le fond. Tu deviens ministre de l'Intérieur, c'est pas parce que, j'ai utilisé l'expression un peu familière, débile tout à l'heure, t'es pas débile quand t'es ministre de l'Intérieur en France, dans la sixième puissance mondiale. Oui. Mais que t'es pas la culture nécessaire pour t'opposer au dogme ambiant, oui, sans doute. Moi, l'un des exemples les plus récents, ça a été Christophe Castaner. Castaner, c'était un mec du Parti Socialiste avant. À un moment, il fait une vidéo, il dit « Ouais, moi, je suis pour la légalisation du cannabis, faut pacifier les quartiers, c'est plus possible que ce soit comme ça, la répression fonctionne pas, etc. » Ça, c'est genre 2013 ou 2014. Et 3 ans après, il est nommé ministre de l'Intérieur, et puis ben, ça, il l'avait oublié. Donc voilà, je pense que...
Et selon toi, du coup, qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi les fondations de ce rôle-là? C'est vu qu'il y a des policiers... à qui on demande de faire du chiffre en cochant des cases et en disant on a interpellé tant de personnes, on a saisi tant de tonnes, et ben en fait on peut pas leur demander de travailler autant sur ce sujet tout en étant plus pour libérer la parole et libérer les lois sur le cannabis.
Mais il faut voir comment le système est aujourd'hui organisé. Aujourd'hui, le système, c'est que on refuse aux policiers d'augmenter de manière structurelle leur rémunération, leurs policiers et gendarmes, de manière structurelle leur rémunération, et on remplace ça par des systèmes de primes et de compléments de salaire. Aujourd'hui, l'un des prétextes les plus fréquents pour filer ces primes, c'est les infractions relevées par les activités des services, et c'est spécifiquement la question des usagers, des consommateurs de drogue, et en particulier de cannabis, et le fait de réussir à interpeller des personnes qui sont en situation irrégulière dans le pays. Donc, pour faire simple, plus tu captures de sans-papiers et plus tu captures de consommateurs de drogue, et plus potentiellement tu peux favoriser l'idée d'une prime. C'est le sens même de la politique du chiffre qui prédomine la sécurité en France depuis 20 ans. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un enjeu à maintenir ça, parce que ça constitue une manne, ça évite d'augmenter les salaires, ça permet de filer des primes, et ça permet surtout, et ça c'est le deuxième point, de donner un rôle aux policiers et de donner Moi, je vois, j'ai l'impression qu'il y a une évolution sur cette question de la sécurité, sur cette question policière. Tu vois, aujourd'hui, il y a une vraie, enfin, la frontière entre les populations. Quand je dis les populations, c'est les populations des quartiers, mais c'est les populations en général. Et les policiers et les gendarmes, elle est en train de s'épaissir, et le fossé finalement se renforce de jour en jour. Pourquoi ? Parce que on n'est plus dans la même vision de la préservation de l'ordre public. On n'est plus du tout dans la même perception de c'est quoi notre rôle en tant que flic ou en tant que gendarme. Je pense machin. C'est plus la concorde républicaine, quoi. Je veux dire, aujourd'hui les flics sont plus là dans les quartiers pour essayer de garantir la préservation de la paix. Ils sont là pour faire du contrôle et montrer aux petits jeunes qui sont là, et ils agissent presque comme une forme de gang rival, ou de, quand il y a des gangs, ou de structure de camp. C'est vraiment la logique de camp, c'est un camp contre un autre. Et donc, de fait, aujourd'hui, la question de l'usage de drogue, et l'usage de cannabis en particulier, c'est un très bon prétexte pour contrôler, c'est un très bon prétexte pour placer en garde à vue, c'est un très bon prétexte pour perquisitionner, c'est un très bon prétexte pour incarcérer. Et donc, tant qu'on n'aura pas changé cette vision, et tant qu'on n'aura pas défendu un changement, enfin une révolution philosophique, je veux dire, du rôle des policiers, des gendarmes, mais plus des policiers d'ailleurs que des gendarmes. Mais en vrai, les deux se valent quand je réfléchis, parce que sur l'usage, les gendarmes se tiennent bien aussi. On restera dans un système où il y a une vraie, où le débat ne peut plus avoir lieu. Et on l'a vu avec l'affaire Nahel, on le voit avec les violences policières aujourd'hui, qu'on appelle violences policières, on le voit avec ce climat qui se détériore en France, avec des populations qui sont de plus en plus persécutées et des policiers qui réclament de plus en plus de sécurité, forme d'immunité, presque un permis d'agir comme bon leur semble. Et donc là, on entre dans cette phase où progressivement, on s'éloigne du sens même de ce qu'est la démocratie. Et j'irais même plus loin là-dessus. Le sens même du travail des policiers doit être normalement de servir le peuple, de protéger la société. Et aujourd'hui, les syndicats les plus à droite, même les syndicats d'extrême droite de la police, sont ceux qui dictent au gouvernement les dispositions à prendre. Je te donne un exemple sur cette question des caméras piétons. Tu sais, on a dit ce serait bien que les caméras piétons soient allumées de manière permanente. Les caméras piétons, c'est des dispositifs qui se trouvent au niveau, qui sont sur l'uniforme de l'officier de police judiciaire, des forces de l'ordre, et qui permet justement de capter l'information, la situation, etc., pour justement, quand il y a des débordements, quand il y a des abus, quand il y a des violences policières, avoir des éléments de preuve concrets pour étayer les positions des uns et des autres. Et certains, du côté des associations des droits de l'homme, des droits humains, ont défendu l'idée que ces caméras piétons soient allumées de manière permanente. Et la position des syndicats est tout à fait l'inverse, que de manière exceptionnelle quand le policier décide, etc. Bah, c'est leur position qui a été retenue. Et tu listes comme ça, et tu vois qu'en réalité, aujourd'hui, c'est ces syndicats. Donc, si tu veux, quand c'est ta corporation qui guide le cadre légal, t'as un sentiment de toute-puissance, et du coup, t'es valorisé, t'es validé dans une vision que tu peux avoir de la société, qui est une vision de la société où il y a des camps. Et quand tu lis le communiqué de presse du syndicat Alliance, au moment de l'affaire Nahel, il dit, on a besoin de moyens pour aller, je sais plus comment c'était écrit, mais ils ont parlé de chienlit, ils ont parlé de guerre, nous sommes en guerre. Et donc, si tu veux, quand au plus profond de toi, dans une démocratie, ceux qui sont censés te protéger sont au contraire, convaincus, pour leur majorité qu'en fait, ils sont en guerre, et ils sont en guerre contre qui? Contre toi. Toi, le jeune rebeu Renoir de banlieue, toi, le militant écologiste, de gauche, etc. À ce moment-là, t'es ministre de l'Intérieur, tu vas pas parler de légalisation du cannabis. Et c'est ça le. Donc, je pense que ça peut évoluer. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et je vois même, moi, j'ai quelques copains flics qui, eux aussi, enfin, je me suis fait du coup des copains flics depuis tout au long de ces années, qui me disent eux aussi qu'ils ont une compréhension, etc. Donc, tous les policiers ne sont pas les mêmes. Et moi, je suis contre toute cette idée de racisme structurel, machin. Mais dans le fond, ce qui ressort, c'est ça. C'est que ça joue aujourd'hui beaucoup sur ces questions de valeurs, de principes. Et on peut pas, si tu veux, demander à un responsable politique, demander à une autorité gouvernementale de tenir une autre position que celle malheureusement de ses troupes. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais, et c'était ça notre ambition au départ, notre ambition au départ, c'était de se dire, si notre objectif final, c'est la légalisation du cannabis, il y a trois manières d'y arriver. La première, c'est qu'il y ait, comme dans un certain nombre de pays, il y ait des décisions de justice pour mettre un terme à la pénalisation. Ça a été le cas en Argentine et en Afrique du Sud. Les cours constitutionnels ont dit, aujourd'hui, les libertés publiques sont trop fortes, les gens ont le droit de consommer, donc vous ne pourrez plus sanctionner des gens qui consomment. En France, ce type d'action n'est pas possible parce que le Conseil constitutionnel, il permet pas ce genre de choses. Bon. Le deuxième moyen de légaliser, c'est des référendums. En France, on organise très peu de référendums. Aux États-Unis, beaucoup plus. Mieux que ça, même si on organisait un référendum aujourd'hui en France, je suis pas convaincu qu'on gagne. Parce que on n'a pas réussi encore, je pense, à gagner la bataille culturelle totalement. Et le troisième moyen de parvenir à une régulation, c'est comme ce qu'ont fait Pepe Mujica, Justin Trudeau, Pepe Mujica en Uruguay, Justin Trudeau au Canada, c'est-à-dire de convaincre des personnes profondément de l'intérêt d'une régulation du cannabis. et d'attendre qu'elles arrivent au pouvoir. et donc, d'une certaine manière, nous, notre espoir, il est un peu là aujourd'hui, c'est de se dire, on échange et on participe à essayer de cultiver, d'informer une partie de la population qui serait peut-être demain en capacité de diriger. Et c'est, je pense que c'est la seule clé. Donc j'espère que j'aurai l'occasion aujourd'hui ou demain ou après-demain de rencontrer le petit jeune qui sera peut-être dans 10 ans ministre de l'Intérieur et qui se souviendra qu'on a eu un échange sur ces questions-là. Mais voilà, ce que je dirais, c'est que d'une part, on peut pas demander au ministre de l'Intérieur de porter d'autres positions que celle-là, sauf à ce qu'il soit vraiment courageux, etc. L'autre élément, c'est que cette question, elle soulève quand même une réflexion plus globale sur les policiers, les gendarmes, et il y a tout le sujet du débat sur la question de la sécurité en France, et donc aussi, le fait de ne pas faire peser, parce qu'on oublie souvent cet élément-là, mais les policiers et les gendarmes, ils ont généralement notre âge, ils ont entre 20 et quelques et 45. Ils se retrouvent dans des quartiers très difficiles parfois, ils se retrouvent dans des conditions très compliquées, avec un système qui est organisé de telle manière à ce qu'ils voient l'autre comme son ennemi. Donc il y a quand même tout ce sujet aussi de comment on les aide à agir et comment est-ce qu'on réinscrit le travail de la sécurité dans un cadre plus démocratique, plus respectueux des droits humains. Et donc c'est tout cet enjeu-là, c'est tout ce débat qui doit y avoir et qui n'existe pas encore aujourd'hui, parce que on est aux prémices de ça. Mais je sens je sais pas si toi tu l'as vu dans les discussions là post Naël, mais je sens quand même que la population générale elle est un peu épuisée par les abus, par les dérives. Elle est aussi un peu exaspérée du fait que aujourd'hui il y a quand même une maltraitance et un sentiment très très fort de malaise chez les flics. Faut pas l'oublier aussi. Mmh. Les policiers se sentent quand même très mal. Il y a des suicides. Les conditions de travail sont pas exceptionnelles. Et donc tout le sujet est là. C'est tout le monde sent bien qu'il y a cette crispation et on aimerait bien tous intervenir. Et moi, si tu veux, voilà, je t'en parle là à travers le prisme du cannabis. Mais j'essaye de détailler, c'est ma thèse initiale là, qui est de dire en parlant du cannabis, on parle de la société. Et je pense que ça te permet déjà de comprendre. Enfin, ça me permet moi personnellement de comprendre ça, de comprendre plus globalement. Finalement, c'est à l'image de ce qui se passe plus globalement. Quoi.
On va parler un peu de sécurité routière. Et tu vois, par exemple, le scandale de Pierre Palmade, ben voilà, ça chamboule plein de choses, on en parle. Finalement, peut-être que dans 3 mois, c'est oublié. On parlera plus ni de la guerre en Ukraine, ni de Pierre Palmade, on aura trouvé autre chose. Et finalement, le cannabis, comme il est intriqué dans tous ces sujets-là, il ressort souvent. Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment de grandes avancées? Je pense que le cannabis thérapeutique, j'aimerais bien aussi qu'on en parle juste après, ça va être une grande avancée. Mais pour revenir donc pour reprendre un peu, désolé, je me suis fait une petite envolée lyrique tout seul là-dessus. Je sais pas si tu vois quelque chose qui...
C'est très beau, j'ai kiffé.
Non, en plus, c'était plus du bloggy boulga qu'autre chose, mais c'était...
Non, mais c'est intéressant parce qu'en vrai... Non, mais
en parlant avec pas mal de militants qui eux aussi... Finalement, voilà, ça fait 30 ans qu'ils sentent que les choses avancent, et 20 ans après, bah, les choses avancent, mais concrètement, bon, bah, les choses avancent. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, je pense que c'est le cannabis thérapeutique, et c'est, tu parlais de trois manières de faire légaliser le cannabis, et c'était pas dedans, et ça m'a surpris. Bon, parlons-en tout de suite, on parlera de la sécurité routière après, pardon. C'est finalement le jour où il y aura dans les pharmacies des produits à base de cannabis, que ce soit des gélules, des comprimés ou de la fleur, qu'on te donne sur ordonnance, mine de rien, si tu vas chez ton médecin, et c'est passé comme ça en Californie, si tu vas chez ton médecin en disant que tu as mal au dos, que tu as des migraines ou que... Quelque part, tu vas pouvoir aller acheter et consommer ton cannabis et aller au travail, conduire avec un papier qui dit « bah oui, en effet, il y a des traces de THC, mais c'est parce que je suis malade ». Et c'est quand même une première sorte de légalisation.
Bien sûr. Et enfin, est-ce que c'est… Enfin, non, je dirais pas bien sûr. Je dirais que… je te répondrai en deux temps. Ça n'est pas une première phase de légalisation, parce que l'enjeu avec le cannabis médical, c'est de répondre aux besoins nécessaires, à la nécessité, aux besoins, à ce qui relève de l'action obligatoire. C'est,
oui, d'accord. La priorité, c'est les patients. Ouais.
Voilà, c'est la non-assistance à personne en danger. Donc, c'est vraiment, si tu prends le triptyque, patriotique, ou en tout cas la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, on est dans la fraternité, parce qu'on est dans une obligation de dignité à l'égard des patients, et c'est pas un loisir de l'État, c'est pas une faculté. Il y a des gens qui souffrent, pour eux, les produits traditionnels, les médicaments traditionnels ne fonctionnent pas, donc il faut absolument leur donner une réponse complémentaire, et la réponse complémentaire, c'est le cannabis, et en fait, ça peut s'appeler de dix manières différentes. Donc c'est pour ça que, pour moi, ça n'est pas une légalisation avant l'heure. Alors que, par opposition, la question de la légalisation de l'usage, c'est une question de liberté. Est-ce que je suis libre de consommer mon cannabis? Est-ce que je suis libre de consommer des drogues? Et plus loin, est-ce que je suis libre de me faire du mal, si je considère que le fait de prendre du cannabis me fait du mal, sans que la société n'intervienne? Est-ce qu'on a le droit de fumer une clope? Est-ce qu'on a le droit de prendre un verre de vin? Est-ce qu'on a le droit de prendre un Taz? Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'Exta? Est-ce qu'on a le droit de se droguer dans une société démocratique et libre, quitte à ce que ça puisse avoir des conséquences, et c'est un peu le sens du système de sécurité sociale, et que la collectivité assume l'ensemble de ses risques, comme on assume l'ensemble des risques de tout le monde. Bon. Donc c'est d'un côté la fraternité, et de l'autre la liberté. D'un côté, pour moi, c'est une obligation de l'État vis-à-vis des patients. De l'autre, c'est une faculté de l'État à l'égard des gens de les autoriser à consommer du cannabis. Et donc, partant de là, c'était sur deux sujets philosophiquement, politiquement différents.
Mais concrètement, si le cannabis est thérapeutique et légalisé en 2024-2025, il y a quand même un bon nombre de consommateurs qui n'iront plus acheter au marché noir et qui iront très certainement demander une ordonnance pour un mal de dos ou quelque chose comme ça, et qui pourront aller consommer.
Alors voilà, et ensuite il y a une deuxième vision qui est la vision que aujourd'hui on la logique est simple, le cannabis est interdit parce que le cannabis c'est de la merde. Ça, c'est ce qu'on nous établit comme règle majeure. Si la merde sert à soigner des gens qui ont le cancer et qui sont à des stades particulièrement avancés de leur maladie, ça n'en est plus vraiment. Donc, changement de perception au niveau de la population qui fait que ça peut favoriser une légalisation. Maintenant, dans la question de la légalisation du cannabis médical, jusqu'à présent, si tu veux, en France, on a eu cette difficulté que, premièrement, je pense qu'on a gagné la bataille culturelle sur le cannabis médical. Aujourd'hui, la majorité de la population, de l'opinion publique, est favorable à la légalisation. On l'a gagné parce que les patients se sont exprimés ces 5-6 dernières années, beaucoup dans les médias. Donc on a réussi, et quand je dis le « on », c'est un « on », le mouvement en général. Hein. On a réussi à populariser le sujet, on a réussi à informer les journalistes au mieux et à les convaincre de ce sujet. On a été aidé aussi par un certain nombre de copains qui se sont mobilisés pour raconter l'épopée de la Creuse et du cannabis médical. Tu sais, il y a eu tout un moment où, ça c'est grâce à Eric Correa, mais aussi à Jean-Baptiste Moreau, et puis des acteurs de premier ordre comme Joigny Chatou, que j'adore. On a réussi aussi à populariser, à raconter une sorte de story très sympa à la française de la Creuse, dans la diagonale du vide, l'un des départements les moins densément peuplés de France, dans lequel il y a le moins d'industrie, et dans lequel le chef-lieu Guéret est composé d'à peu près, l'agglomération de Guéret est composée d'à peu près 12 000 habitants, que ce département-là serait le nouveau Colorado. Et il y a eu tout un petit moment, il y a eu les JT, il y a eu beaucoup de monde, hein, je veux dire, pour le coup, ça a été un chat. Et donc, même les gens qui n'étaient pas forcément convaincus par le cannabis médical, donc plutôt la population de la ruralité et autres initialement, et qui s'en sentaient un peu éloignés, a trouvé tout de suite que ça pouvait être un moyen de développer. Et d'ailleurs, les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs se sont mis à faire un peu de CBD aujourd'hui, mais je pense que d'ailleurs on pourra faire un petit point sur CBD après. Voilà. Donc je pense que il y a en effet une bataille culturelle de gagner sur le cannabis médical. Maintenant, il y a une bataille politique et réglementaire qui n'est pas gagnée. Aujourd'hui, ils ont repoussé l'expérimentation. L'an dernier, on s'est battu pour que l'expérimentation ne soit pas prolongée. Donc je rappelle, hein, le cadre, l'expérimentation réunit 3000 patients, pendant 2 ans, qui sont suivis par des centres de référence, par des médecins spécialisés qui ont été préalablement formés avec des entreprises étrangères qui fournissent le cannabis médical, qui est un cannabis au standard des médicaments, dans un cadre ultra produit, fabriqué, conçu, stabilisé, dans un cadre ultra scientifique, encadré, etc. Et donc, normalement, l'expérimentation devait s'arrêter en mars 2023. Et finalement, elle est prolongée jusqu'en mars 2024. Et normalement, après mars 2024, on doit avoir ce qu'on appelle une phase d'intégration du cannabis dans le droit commun, c'est-à-dire une généralisation. Donc, passer des 3000 patients de l'expérimentation actuelle à 20, 30, 40, 50, 300 000. Bon. Nous, on est parti sur ce sujet du cannabis médical en faisant une analyse statistique précise qui montrait que en France, en termes de besoins concrets pour les usagers de cannabis médical, on est sur une population de 270 à 320 000 personnes. C'est ça la fourchette de gens qui en auraient vraiment besoin. Donc pas les maux de dos. Si certains maux de dos avec des douleurs, des vrais maux de dos quoi. Je veux dire, je veux pas nier la douleur des personnes qui ont juste soulevé un colis et qui ont un petit. Non, mais je veux dire, voilà, tu me comprends.
Oui, bien sûr, des personnes qui ont vraiment besoin de cette issue thérapeutique et ce serait pas un prétexte pour avoir accès finalement à leur drogue récréative.
Mais bien sûr, et d'ailleurs, je me réécoute en le disant, et il y a presque un truc paternaliste à dire, toi tu mérites d'avoir le cannabis médical et toi non. Mais qu'on se comprenne, il y a des gens pour lesquels, et on revient sur cette idée initiale, il y a des gens pour lesquels c'est nécessaire et d'autres pour lesquels ça doit être une liberté. Et il faut défendre ceux pour lesquels c'est nécessaire et ceux pour lesquels ça doit être une liberté. Mais s'agissant de ceux pour lesquels ça doit être nécessaire, quand tu n'as pas de traitement alternatif, si tu as juste la possibilité entre prendre du cannabis et du paracétamol, bon, tu peux prendre du paracétamol. Moi, je rêve qu'on ait le choix en première intention entre les deux. Et ça me semble l'effet antalgique du cannabis est plutôt démontré, même s'il est relatif, ou en tout cas qu'il est considéré comme d'une intensité assez peu élevée. Mais soit, entre ce qu'on souhaite et ce qui va se passer, bon, il y a un changement. Sauf que le gouvernement, lui, et les autorités de santé sont pas sur la fourchette de 170 à 320 000. Ils sont plutôt entre 40 et 50 000. Donc avec beaucoup de conditions à l'entrée, avec des conditions d'indication très limitées, avec un produit dont on ne sait pas encore vraiment s'il sera produit sur le territoire national ou s'il sera importé de l'étranger. Donc il y a encore aujourd'hui un certain nombre de zones d'ombre. Et au moment où on parle là, il y a ce qu'on va appeler dans les prochains jours le projet de loi de finances de sécurité sociale.
Justement, j'allais t'en parler.
Donc le PLFSS doit être publié dans le projet de loi de finances de sécurité sociale. C'est le texte autour duquel le Parlement discute et vote chaque année pour l'ensemble des lois qui correspondent au système de sécurité sociale, aux santé, aux solidarités. Donc c'est tout le système social qui fait l'objet d'une que ça aille des minimums vieillesse jusqu'à la question des nouveaux médicaments, passant par le changement de politique sanitaire, etc., etc. Donc c'est dans ce texte normalement qu'on est censé avoir au moins des dispositions pour permettre cette généralisation du cannabis médical. À ce stade aujourd'hui, les éléments ne sont pas dans le texte.
Et donc du coup, Béchir, donc ce fameux plan de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, je suis très content de pouvoir en discuter avec toi parce que je ne connais pas vraiment les nuances. Je sais que si le cannabis thérapeutique en fait partie, il sera remboursé et donc il sera accessible. S'il n'en fait pas partie, il ne sera pas remboursé et donc très inaccessible. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et à quel point c'est important ?
Mais en fait, pour faire simple, déjà, je te remercie parce que la question, elle est centrale pour comprendre les débats qu'on a sur la question du cannabis médical, mais plus globalement pour comprendre les débats qu'on a sur les addictions et les drogues en général. La loi de financement de la sécurité sociale, LFSS, c'est un texte qui passe par l'Assemblée nationale et le Sénat chaque année, aux alentours du mois d'octobre et de novembre, jusqu'à décembre d'ailleurs généralement, et qui est la loi qui autorise le budget de la sécurité sociale. Et donc c'est un texte qui reprend l'ensemble des dispositifs sociaux sanitaires du pays, depuis les minimums vieillesse jusque à la prévention, en passant par une éventuelle légalisation du cannabis médical. En tout cas, c'est un texte qui pourrait être utilisé à cette fin-là. Donc chaque année, c'est la bataille parce que tout le monde, évidemment, dans tous les milieux de la santé, essaye de se mobiliser pour intégrer les propositions. Les médecins veulent tant de prérogatives supplémentaires, les hôpitaux aussi, etc., etc. Et donc c'est là où on fixe les budgets et le cadre général. S'agissant de l'intégration du cannabis médical dans le droit commun, normalement, le projet de loi de finances de sécurité sociale de 2024, donc qui sera présenté là ou qui a été présenté là récemment, a vocation à fixer dans le marbre, cette légalisation du cannabis médical. Donc, normalement, on devrait avoir des dispositions qui précisent quel sera le statut du cannabis en tant que médicament, à partir de 2024. On devrait avoir des informations sur comment est-ce qu'il serait éventuellement prescrit, ou en tout cas avoir, disons, une présentation générale de ce programme de cannabis médical français. Et comme je te le disais avant, on a ce problème aujourd'hui entre nous, nos estimations, qui sont entre 270 000 et 320 000 patients, et l'État qui est plutôt aux alentours des dizaines de milliers. Et donc, comment ils font pour réduire l'accès, eh ben, ils vont poser un certain nombre de cadres de dispositions restrictives, etc., etc. Donc, il y a deux possibilités aujourd'hui, deux hypothèses dans le cadre de ce débat sur le PLFSS. D'un côté, il y a la possibilité que le texte sur le cannabis médical y soit. Et dans ce cas-là, ça va nécessiter que les associations de patients, que les industriels se mobilisent dans cette période pour essayer d'élargir au mieux cette future légalisation du cannabis médical. Ou bien ça n'y est pas, et dans ce cas-là, ça veut dire, et aujourd'hui, moi, les informations que j'ai et les textes que j'ai eus tout au long de l'été me montrent qu'il n'y a pas de disposition sur le cannabis médical, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut redoubler d'exigence et de mobilisation, parce que ça n'est pas acquis. Donc si tu veux, il y a ce trompe-l'œil, qui est que on a l'impression tous autour de nous que ça va, parce que tout le monde est d'accord pour légaliser le cannabis médical, mais c'est une bataille encore permanente, forte, et ça va nous occuper durant les prochains jours, prochaines semaines. Et pour revenir sur la première question que tu me posais sur ce sujet, oui, quand tu légalises du cannabis médical et que ce que tu considères comme de la merde devient un médicament, eh ben forcément, ça change les perceptions des gens. Et donc peut-être qu'à terme, ça favorisera le soutien de l'opinion publique sur le sujet. En attendant, moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'opposition de la part d'une frange conservatrice de la société, parce que justement elle perçoit cette arrivée de l'usage médical du cannabis comme l'ouverture d'une boîte de Pandore ou d'un pied au niveau de la porte. Et c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de convaincre cette frange très limitée mais qui a un pouvoir assez important. Je pense à l'Académie de médecine par exemple, je pense à un certain nombre de médecins, de grands médecins, de chefs de service qui ont été mobilisés, notamment par Nicolas Autier qui a fait un travail formidable pour essayer de contacter beaucoup de médecins et de centres de référence partout sur le territoire. Et donc on y est pas encore, mais on compte sur, et c'est là où il y a quand même un élément, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des personnes à la Direction Générale de la Santé, dans le cabinet de l'ancien ministre et sans doute dans le cabinet de celui à venir, en tout cas d'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé qui a été nommé au début de l'été, il y a des gens de plus en plus convaincus. Moi je sens qu'il y a, même parmi la haute fonction publique, même parmi les prescripteurs et les exécuteurs de la politique publique, il y a de plus en plus de gens convaincus sur cette question. Donc finalement, la prise de conscience de l'opinion qui a eu lieu il y a 5-6 ans, aujourd'hui, elle est suivie d'un changement progressif des perceptions, et donc on va, a priori, j'espère, arriver à une légalisation du cannabis médical en 2024. Maintenant, est-ce que ce sera forcément une manne financière ? Pas forcément. Parce que, si tu veux, il y a tout le sujet de, ok, donc déjà il faut le produire selon les standards pharmaceutiques. Donc, tu sais, ce qu'on appelle les good manufacturing practices, les bonnes pratiques de fabrication. Ensuite, il faut s'assurer que le médicament il soit stabilisé. Donc là, ça demande quand même beaucoup de tests, d'avoir les mêmes variétés, les mêmes produits, etc. Et enfin, après, il faut une évaluation de la Haute Autorité de Santé, si on est sur un médicament traditionnel. Mais dans tous les cas, qu'il y ait une évaluation ou non, à la fin, il y aura une négociation avec l'État sur le prix. Et la négociation sur le prix n'a pas encore eu lieu. Donc, à ce PLFSS, on va peut-être avoir un statut, enfin, de médicament pour le cannabis médical sous forme de plantes standardisées, etc., etc., ce dont on parle là, quoi, ce qui se vend partout en Europe. Et ensuite, il va falloir qu'il y ait une évaluation et un remboursement, un taux de remboursement et un prix établi. Et ça, on n'y est pas encore. Donc ça peut prendre un an et demi de plus. Et l'autre élément, c'est ce que je disais, c'est que c'est un marché qui va être très limité en termes de... Enfin, qui est très peu accessible, comme le cannabis médical lui-même d'ailleurs. Donc les nouveaux acteurs vont avoir du mal à s'y engouffrer. Et avec un potentiel économique qui peut être très limité aussi.
Et parce que la négociation entre l'État, en fait c'est l'État qui fixe le prix et après les industriels disent ok, nous on peut produire ce médicament pour tel prix ou pas. Et ce prix qui est fixé par l'État, en fait il est fixé selon l'estimation qu'a l'État du service rendu, ou en tout cas des coûts évités par le médicament, c'est ça?
C'est t'en fais une explication synthétique et plutôt compréhensible. J'irai préciser un petit peu. En fait, l'État est censé avoir besoin du médicament. Les industriels proposent un médicament dont on a besoin. Donc ils sont censés négocier le prix. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la négociation de prix, c'est l'État qui fixe unilatéralement.
Okay.
Et d'abord, il y a une négociation. Et donc, toute la question aujourd'hui sur le statut du cannabis médical, là, on va aller plus précisément, mais je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs qui sont des entrepreneurs et qui pourraient être intéressés par le sujet aussi. C'est que aujourd'hui, on ne sait pas si le statut du cannabis médical va être le même pour l'ensemble des produits. Et donc, il y aura une négociation, en fait, globale. Peu importe les producteurs, peu importe les fournisseurs, peu importe le taux THC, CBD, etc. Ou s'il va y avoir une négociation produit par produit, labo par labo. Et le statut qui va être déterminé à l'issue des discussions du PLFSS, si ce statut est finalement voté et s'il est proposé, parce que je te dis à ce stade, c'est pas encore sûr, eh bien, ça nous permettra de savoir dans quel contexte ça se situe. Il y a tout un sujet aujourd'hui qui vise à ce que la tentation du gouvernement, c'est plutôt de proposer un statut unique avec une prise en charge standardisée, quoi. C'est-à-dire prise en charge pour tous les produits du cannabis médical à destination des patients qui sont plutôt en échec thérapeutique. Donc ça veut dire remboursement pour ceux qui ont des pathologies lourdes, mais pas de remboursement pour les autres. Et donc ça veut dire peut-être même aller jusqu'à demander une autorisation de la sécurité sociale pour avoir l'autorisation de prescrire et de rembourser. Mmh. C'est pour ça que je t'en parle en toute transparence d'ailleurs. Je pense que chacun doit se saisir chaque année du budget de la sécurité sociale et dire tiens, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de prévention, j'aimerais bien qu'on augmente les minima sociaux, j'aimerais bien que machin. Et donc là-dedans, il y a le cannabis médical et je pense que les gens doivent se mobiliser là-dessus. Et comment se mobiliser? C'est en effet contacter son député, c'est en effet publier des messages partout où c'est possible pour évoquer la situation. C'est quand on est malade, témoigner, assumer de témoigner et dire voilà, moi j'en aurais besoin ou moi j'en utilise. Et alors je veux pas pousser les malades à témoigner alors qu'ils seraient dans une situation d'illégalité. On en a déjà eu trop en justice. Mais qui est ne serait-ce que des témoignages anonymes, mais qu'on puisse transmettre l'urgence d'avoir accès à ce médicament, transmettre l'urgence dans laquelle se trouve les centaines de milliers de personnes en France qui ont des douleurs chroniques, qui ont la sclérose en plaques, qui ont d'épilepsie, et qui ont des cancers aussi, que toutes ces personnes disent, et évidemment nous on les accompagne et on les soutient, mais leur parole est tellement forte, moi j'ai vu tellement de témoignages qui m'ont touché, c'est ça qui m'a convaincu, je te disais initialement, d'avancer sur cannabis médical. Si Bertrand Rambaud m'avait pas raconté un bout de ce qui le mobilise avec l'émotion et la force de ce qu'il peut avoir comme témoignage, j'aurais pas été heurté de cette même manière, comme le nombre de malades qu'on a accompagnés qui ont été poursuivis ces dernières années. C'est que on a besoin, et c'est même une réflexion politique plus générale, on a besoin dans un moment où le débat est à ce point paupérisé, où le débat est même plus, voilà, on a besoin d'élever un peu. Et on élève parce qu'on y ajoute du personnel, parce qu'on raconte des histoires. Et si demain, tous les députés sont envahis d'une vague de responsables associatifs locaux, d'associations de patients eux-mêmes, ou d'usagers tout court qui trouvent qu'il y a un sujet, oui, là, tu peux avoir ce mouvement très fort qui permettra qu'on ait une légalisation du cannabis médical qui soit un peu plus ouverte et déjà qu'elle soit assurée en 2024. Mais à dire vrai, notre influence, elle reste quand même très limitée. Et je pense que ça va plutôt passer par essayer de mobiliser et de remobiliser un certain nombre de députés alliés. Et ça passe surtout par le fait d'essayer de convaincre ceux qui gouvernent et ceux qui dirigent. Hein. Je pense que c'est autour de ça que se fait l'exercice. Et d'ailleurs, heureusement, aujourd'hui, qu'on a à l'Assemblée nationale un pool de députés de tous les camps quasiment, qui sont favorables au cannabis médical et qui sont jamais contre, jamais prendre la parole, envoyer des questions au gouvernement, interpeller surtout principalement le ministre de la Santé sur le sujet, etc., etc. Et ça, c'est vraiment essentiel qu'on ait cette vigie finalement parlementaire. Mais ça reste un exercice compliqué. Donc voilà. Donc je te rends compte de l'actualité avec l'arrivée du PLFSS. Je te rends compte de cette évolution sur cannabis médical en te disant il y a ce trompe-l'œil entre l'impression qu'on en a et en fait les difficultés effectives, et peut-être que dans 6 mois on se rappelle et je te dis bah finalement c'est génial, t'as vu, on a gagné, c'est merveilleux, et non, de toute façon on se reverra pas en 6 mois parce que si jamais on a un texte qui est conforme et qui est voté au Parlement en octobre-novembre, ça voudra dire, moment historique, que la France à légalise le cannabis médical. Donc de toute façon, ce sera un moment d'actualité fort chez nous. Mais pour y parvenir, il y a ce besoin, et je rends compte, non pas de ce que nous strictement on fait au sein d'Alti 130, on participe à cet effort-là, mais de ce que du débat qui a lieu et de l'ambiance générale qui prédomine autour de cette question du cannabis médical.
Et je trouve que cette ambiance générale, parfois il n'en faut pas beaucoup, même sans faire le buzz des 10 dernières années et de passer sur tous les JT pendant une semaine. S'il y a 3 personnes qui contactent leur député, peut-être que le député il va se dire ah, « ok, c'est un sujet chez moi quand même ». Et s'il y a plusieurs députés qui reçoivent quelques mails, quelques appels, quelques interpellations sur le marché, peut-être que rien que ça, ça peut être à des moments décisifs de faire la petite bascule, parce que ça crée une ambiance un peu différente. Donc déjà, dans ceux qui nous écoutent et partout, là, on va partager ces quelques mots, ça peut être quelque chose à faire, c'est quelque chose de même d'important à faire pour ceux qui, aujourd'hui, ont besoin de ce médicament, d'aller voir les personnes qui décident. Aujourd'hui, c'est les députés qui nous représentent, et d'aller voir les députés de chez vous, de votre département, pour les contacter et leur dire bah voilà, ça va être négocié, sachez que... moi, j'ai mon oncle, j'ai ma tante, ou alors c'est moi-même. On a besoin de ce médicament. C'est quelque chose sur lequel il faut que vous soyez fort. Quoi. Il faut pas avoir peur de voter les choses. Et je suis convaincu que si ça se trouve, il en faut peu. Si ça se trouve, il faut une dizaine de mails, une centaine de poignées de main sur un marché pour que finalement il y ait une petite bascule à un moment donné. Il fallait absolument aussi qu'on parle de la sécurité routière pour conclure le chapitre sécurité sociale. Parlons encore, terminons sur on a fait sécurité avec la police, ensuite sécurité sociale et maintenant sécurité routière.
Oui, après en vrai je te dirais c'est même plus global que sécurité routière, c'est finalement l'éthique et l'évaluation de la politique pénale. Je résume un peu le contexte. En France, l'interdiction de l'usage illicite de stupéfiants intervient à partir de la fin des années 70. Depuis le 31 décembre 1970, qui était la première grande loi d'interdiction de l'usage personnel, tu as à peu près un texte de loi tous les 6 ou 7 mois, il me semble, en moyenne. Alors, c'est Yann Biziou, qui est mon maître à penser, qui fait les calculs de manière très précise. Je crois que c'est une loi tous les 7 mois depuis 53 ans.
Wow, okay.
Pour renforcer les dispositions d'interdiction, de pénalisation, etc., etc. Et cette interdiction générale et cette répression se renforcent de plus en plus et sont nourries par ce qu'on appelle le principe de l'autopoïèse. L'autopoïèse, c'est quoi ? C'est que la loi se nourrit par elle-même. Je m'explique. On pénalise des gens, mais ça marche pas. On te répond, ça ne marche pas parce qu'il n'y en a pas assez. Donc on va en rajouter une couche. On pénalise encore plus et ça ne marche pas. et ça ne marche toujours pas assez. Et pourquoi? Parce qu'on ne pénalise pas plus. Et on rajoute des couches et des couches et des couches de dispositions législatives les unes après les autres. Et tu sais, tu as cette phrase très drôle de Diderot dans le supplément Voyage de Bougainville. Nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme. Et en attendant, nous nous y soumettrons aveuglément. Bah, c'est exactement ça. C'est que tout le monde trouve ça parfois débile, parfois inutile. Mais on continue d'appliquer drastiquement les lois et les dispositions qui visent à réprimer. Je vais même plus loin. On a une impression, une fausse impression, qu'aujourd'hui en France, c'est dépénalisé. C'est vrai que, en comparaison du nombre d'usagers et de joints qui sont consommés chaque année, la pénalisation, c'est une goutte d'eau. Mais il y a quand même entre 250 et 300 000 personnes chaque année qui sont interpellées, certaines passées en garde à vue, d'autres perquisitionnées, etc., etc., etc. Donc, c'est en trompe-l'œil aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus personne n'est pénalisé pour l'usage du cannabis. Si. Si, si, on est pénalisé pour l'usage du cannabis. J'irai même plus loin. La pénalisation, c'est renforcée, elle s'accentue, elle ne fait que s'accentuer. Et on va aller dans un terrain un peu compliqué, mais de la responsabilité morale. Mmh. À un moment, Emmanuel Macron, qui répondait à une interview, je crois, de Valeurs Actuelles, disait « Il faut que chaque consommateur de cannabis qui consomme son joint dans son salon et qui le reçoit en livraison se sente responsable parce qu'il est complice du trafic. » Un truc comme ça. Enfin, c'était une phrase un peu alambiquée comme ça. Mais moi, j'invite ceux qui consomment leur weed et la commande avec le livreur quasi Uber Eats ou Deliveroo ou n'importe quel nom, à s'interroger sur la responsabilité pénale qu'ils font peser sur la personne qui livre. C'est une responsabilité qui est énorme. Et généralement, c'est des jeunes, renois ou rebeux, qu'on retrouvera parmi les premiers à être poursuivis. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où même dans l'illégalité, l'inégalité persiste. Dans l'illégalité de la consommation de cannabis, l'inégalité persiste parce qu'on fait, peser sur le banlieusard qui fait la livraison, ou on fait peser sur le jeune rebeu et renois qui sera susceptible d'être contrôlé, davantage de risques judiciaires que le petit blanc bourgeois qui se retrouve dans son salon et qui attend que l'autre arrive. Et tout cela, toute cette réflexion-là sur l'application de la loi et sur la pénalisation de la loi, tout cela n'a jamais été évalué réellement. Il y a eu des évaluations. Il y a une évaluation sur le... Je te parlais tout à l'heure de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui a fait une évaluation sur le coût social et sanitaire des drogues. Il y a des évaluations techniques. Il n'y a pas d'évaluation globale de la politique pénale. On fait des évaluations de toutes les politiques pénales, de toutes, à l'exception d'une, celle qui touche aux stupéfiants. On ne s'interroge pas sur la quantité et les moyens mis dans la répression face aux résultats attendus et aux résultats concrets obtenus.
Il y a une raison qui est connue pour ça ?
Comment ?
Est-ce qu'il y a une raison qui est connue pour le fait de ne pas faire d'analyse de cette action-là ?
C'est principalement l'argument de l'autopoïèse. C'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans la répression qu'en fait elle n'apporte pas les résultats escomptés. Et donc nous aujourd'hui en tant que L630, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est le lancement d'une mission d'information qui vise à évaluer les politiques de lutte contre les drogues en France. Ça c'est notre première... Donc je te parlais du cannabis médical, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de CBD cette fois parce que ça, ça commence à faire long, mais on pourra en discuter. Mais sur cette question de la politique pénale et de ce qui relève de la liberté, tu sais, on parlait de dignité face à liberté tout à l'heure, de la liberté de consommer des drogues, l'une de nos mesures fortes aujourd'hui, l'une de nos propositions, ça va être notre priorité d'ici à la fin de l'année 2023, c'est de réclamer cette mission d'information qui vise à évaluer les politiques de lutte contre les drogues. Et là-dedans, tu as un créneau énorme qui est celui de la sécurité routière. On a parlé du contrôle aux faciès, etc., etc. Ça, c'est bon, on passe à autre chose. On a évoqué la question des consommateurs. Ok, c'est bon. Je t'ai parlé là du cas des petits dealers et des petites personnes qui transportent et qui sont plus ou moins victimes et qui sont en première ligne. Je t'ai rappelé le chiffre des 250 000 à 300 000 personnes interpellées. Et là-dedans, il y a une zone où, pour le coup, ça touche tout le monde et sur tous les territoires. Et c'est une violence absolue pour socialement et personnellement, c'est cette question de la conduite. La sécurité routière, c'est quand même l'objectif, c'est d'assurer la sécurité sur la route. Ok. Il n'y a pas une loi relative à la sécurité routière en matière de stupéfiants qui n'ait pas été suscitée par un fait divers, qui n'ait pas été suscitée par un événement d'actualité. Les lois qui visent à interdire le cannabis aujourd'hui au volant sont absolument déconnectées de la réponse rationnelle, en tout cas c'est notre point de vue, de la réponse rationnelle qu'on devrait avoir. Le premier texte important dans le domaine, c'est évidemment la loi Marilou. La petite Marilou se fait renverser par un mec qui conduit et qui s'était à Belley en Vexin, un accident tragique, un mec conduit et il avait consommé du cannabis avant. Je crois que c'est un an après, la loi Marilou est votée. Et c'est la loi qui prévoit que la conduite sous emprise de stupéfiants constitue un délit. Plus que celle de l'usage de drogue, passible de 2 ans d'emprisonnement à l'époque. Et depuis la loi Marilou, il y a eu des évolutions. Avant, il fallait un prélèvement sanguin, maintenant il faut des tests salivaires. Avant, il n'y avait pas de suspension automatique du permis, maintenant il y a une suspension automatique du permis. Et moi, je le vois au quotidien, parce que pour le coup, au sein d'Alti 130, il y a beaucoup de gens qui nous contactent là-dessus aujourd'hui encore. Et donc, on les renvoie soit vers des cabinets d'avocats, soit on commence à avoir un certain nombre de fiches et d'éléments de réponse. Aujourd'hui, il y a une pénalisation indirecte qui est terrible. Il suffit pour une personne qui habite en banlieue d'une petite métropole qu'on lui enlève son permis de conduire parce qu'elle a fumé un joint la veille. Et elle peut perdre son job et elle peut se désociabiliser. Ça peut être aussi j'utilise ma voiture le week-end pour aller voir mes enfants parce qu'on est séparés, c'est plus possible parce qu'on habite à 30 km de la ville la plus proche, etc, etc, etc. Et donc ces lois qui prétendent protéger la sécurité sur la route sont des lois qui créent beaucoup de tensions sociales et surtout principalement d'ailleurs dans la ruralité, là où il y a le moins de transports en commun, là où les gens sont les plus éloignés de l'accès au train, au bus et autres. Et donc nous, ce qu'on demande spécifiquement, donc il y a la première proposition qui est une évaluation des lois de lutte contre les drogues. Et il y a une demande spécifique sur cette question de la sécurité routière, où là, on essaye d'animer un groupe de travail avec un certain nombre de députés pour dire on doit changer le cadre. Je donne un exemple. Aujourd'hui, la loi ne parle plus de sous-emprise de stupéfiants. Aujourd'hui, tu es condamné au volant si tu as consommé du cannabis, si on en retrouve dans ta salive ou si on en retrouve dans ton sang. Si on en retrouve dans ta salive, ça veut dire que c'était il y a quelques heures. Donc si j'ai fumé un petit joint ce matin à 10h, ou d'ailleurs vaporisé, je soutiens la vaporisation, réduction des risques, souvenez-vous. Si on a vaporisé de la weed à 10h et qu'on prend la voiture à 14h, il n'y a plus grand effet du produit qu'on a consommé le matin. Mais le produit reste dans la salive. Donc ça n'est pas une sanction au motif de la sécurité routière, c'est une sanction sur le motif moral que la personne a consommé des drogues. Et d'ailleurs, on parle là-dedans de conduite après usage de stupéfiants. La loi ne réclame même plus qu'on justifie que la personne soit sous emprise, sous l'influence, que ça ait une incidence sur sa manière de conduire. Donc on veut ce changement, et ce changement, il passe... Alors, il y a un certain nombre de structures, d'organisations spécialisées qui parlent de tests psychotechniques, psychomoteurs. Il y a tout un sujet à avoir sur... En tout cas, on doit ouvrir le débat
sur
comment on fait les nouveaux contrôles, comment on fait la nouvelle sécurité routière. Est-ce que ça passe forcément par ces tests salivaires et par cette suspension automatique du permis ? Et on parlait des policiers tout à l'heure, ça mobilise un temps fou, mais on va plus loin. Ça mobilise aussi le temps de la justice. On a une justice qui est très peu financée en réalité au regard du reste de l'État, et c'est le troisième contentieux les drogues en matière de dans les tribunaux, ça remplit les tribunaux aujourd'hui. Donc il y a tout un sujet de comment on fait pour faciliter tout ça, pour rajouter de l'huile dans les rouages et pour permettre véritablement qu'on garantisse la sécurité des individus. Et c'est vrai qu'avec l'affaire Palmade, j'ai eu l'impression qu'on était revenu 20 ans en arrière. Il n'y a pas de jugement à avoir sur le comportement d'un homme, même si on peut en penser, on peut en penser ce qu'on veut. Mais je reste convaincu qu'on ne peut plus faire des lois qui dépendent à ce point de l'actualité, des lois prises sous l'émotion. Et malheureusement, en matière de cannabis et de drogue, on est constamment dans ce sujet de l'émotion. L'affaire Palmade, elle a eu une conséquence d'ailleurs. Deux conséquences claires. C'est qu'on espérait à ce moment-là, et d'ailleurs c'est toujours l'espoir qu'on suscite, en tout cas qu'on espère susciter, on espérait sortir la catégorie des usagers de CBD de la liste des personnes qui potentiellement ne peuvent pas se voir contrôlées positives. Et idem pour les usagers de cannabis médical. Les patients d'expérimentation n'ont pas le droit de prendre leur voiture. Pour le moment, on en est loin. En tout cas, c'est un refus clair des autorités. Donc voilà, donc ça peut avoir un impact, ces affaires, et ça en a eu. Et je pense qu'il y a un sujet à voir sur la sécurité routière en particulier, mais en fait il y a une évaluation de la politique de lutte contre les drogues en France plus globale à avoir. Je pense que c'est faut qu'on arrête d'être dans ce truc de l'autopoïèse où le système se nourrit par lui-même et où il y a pas d'échange, il y a pas de co-construction. On va droit dans le mur. C'est quoi la prochaine étape? Tu sais, pardon, il y a deux modèles finalement dans le monde, deux modèles extrêmes. Ou bien on arrive au Canada avec une légalisation, ou bien on arrive aux Philippines avec la peine de mort. Donc quel est le chemin qu'on prend aujourd'hui? Aujourd'hui, on se rapproche franchement plus sur la loi, on se rapproche plus de la Philippine que du Canada. Donc à un moment, voilà, il faut rebalancer ça, et il faut dire, voilà, l'entre-deux, à mon sens, l'entre-deux en matière de politique de drogue n'existe pas. Donc ou bien ils légalisent, ou bien ils répriment, et ils réprimeront durement, et ils réprimeront salement, et ils ont déjà réprimé durement et salement. Donc la question c'est quand est-ce qu'on sort de ce système, quand est-ce qu'on rétablit un peu de justice et de droit, quand est-ce qu'on fait que les lois soient réellement là pour protéger les individus, pour garantir la protection de l'ordre social, pour garantir la justice. C'est ça l'enjeu même de notre bataille, et c'est pour ça qu'on prend la sécurité routière, et la demande d'évaluation des politiques publiques comme une étape essentielle, parce qu'on a besoin aussi de cette prise de conscience chez les gens qui sont parfois convaincus que c'est bien d'interdire, parce que sinon ça rajoute des problèmes, machin, etc. Et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de cette prise de conscience, et la prise de conscience ne peut avoir lieu que si on a un débat éclairé, où les personnes sont capables d'échanger, de discuter, de se confronter raisonnablement, et il faut que les fameux syndicats de policiers qui considèrent que les Arabes et les Noirs en banlieue sont de la chienlit, que ceux-là aussi soient invités pour échanger, parce que je pense que les policiers aussi ont un rôle, et je rajoute, ça c'est peut-être le dernier point de ma réflexion, partout dans les pays où on a précédé la légalisation, il y a des policiers qui ont pris la parole. En France, on a Police contre la Prohibition, qui fait des trucs géniaux, même s'il reste un peu peu nombreux, pas assez soutenus. Mais je pense qu'il y a le LIP aussi qui a été lancé, je crois. Enfin, il y a deux, trois collectifs comme ça qui existent. Mais il y a besoin de faire émerger cette parole des policiers, des gendarmes, des représentants de l'ordre, entre guillemets. Et je pense que ce débat qu'on appelle de nos voeux a cette vocation-là aussi.
Eh bien, écoute, Béchir, merci beaucoup. Je pense que tu as lancé de très belles réflexions pour tous ceux qui t'ont écouté. Et tu nous as apporté aussi de belles informations. Je pense en effet que ce serait très intéressant qu'on puisse rediscuter ensemble quand le PLFSS sera dévoilé, et voir quelles sont les conséquences, que ce soit qu'elles soient heureuses ou malheureuses. J'aimerais beaucoup, là je sais que tu fais ça très bien, j'aimerais beaucoup que tu nous fasses une petite conclusion, si possible positive et si possible combative, sur le futur que tu vois au sujet du cannabis. Allez, freestyle.
Conclu. Voilà. Non, bah déjà je te remercie, et je remercie Parlons Canada pour l'invitation. De toute façon, on verra ce que ça donne. Et il faut avoir de l'espoir, il faut continuer de se mobiliser, et de toute façon on reste en lien les uns et les autres à travers les réseaux sociaux. Puis, tu sais, il y a cette phrase, tu sais, j'aime bien finir sur une petite phrase, mais je pense que c'est tout ce que ça dit, phrase que j'aime bien de Paul Éluard: la lumière toujours est toute prête de s'éteindre, mais le printemps renaît qui n'en a pas fini. Je suis sûr que le printemps va renaître. Voilà, merci à toi en tout cas pour l'invitation.
Merci beaucoup, Béchir.
Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde, ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.